du Cap Green. Et quand j'ai fini de pêcher, on se retrouve chez Léon, son éonce. On mesure les poissons en vidant les canons et on passe vite le cap car ça tape.
Tenir les caps, c'est le nom d'un livre d'entretien avec Dominique Dupillet, figure politique du Pas-de-Calais, un livre entretien signé Jean-Jacques Damor et qui vient de sortir aux éditions douaisiennes Angelard. Dominique Dupillet, 80 ans cette année, a été président du Conseil général du Pas-de-Calais durant 10 ans, de 2004 à 2014. Il a aussi été député socialiste, 23 ans en tout, maire de Vimereux près de Boulogne et vice-président du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais. On le retrouve au micro de Jean de PFM. C'était jeudi dernier à l'occasion d'une séance de signature à la Grand Librairie à Arras.
Alors votre livre s'intitule « Tenir les caps ». Le titre sonne un peu de deux manières. La première, c'est un peu comme un mot d'ordre dans un avis de tempête. On a l'impression que bon, on est dans une situation politique, sociale, mondiale, extrêmement incertaine et qui peut être inquiétante. Et donc le titre résonne un peu comme « Maintenir le cap ». Et puis la deuxième manière dont je reçois le titre du livre, c'est évidemment les caps, le cap griné, cap blanc de nez, un peu un appel à l'enracinement, à la fidélité à un lieu, à un territoire. Est-ce que c'est comme ça que vous avez conçu ce titre et est-ce que c'est le reflet du livre ?
Eh ben, vous avez effectivement raison, c'est les deux à la fois. Le grand site national des caps qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est l'image que chaque fois que la région des Hauts-de-France veut se produire à l'extérieur, on voit toujours une image du cap Blanc-Nez ou une image du cap Griné. C'est aussi l'endroit d'où partent les migrants et dont on parle régulièrement à la radio et à la télévision. Et donc par conséquent, parler du site des caps, c'est à la fois raconter l'histoire franco-anglaise qui aujourd'hui est malheureusement imagée par ces problèmes de migrants, mais qui a été aussi le rêve de tous les grands conquérants, de Jules César jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, puisque Hitler avait passé Noël juste sur le site des caps en 1940. Et puis, tenir les caps, ça veut aussi dire que quand on veut faire de la politique, on ne peut pas faire de la politique si on n'a pas un cap fixé d'avance. On n'avance pas à l'aveuglette. On s'aperçoit que quand on avance à l'aveuglette, on échoue. Et donc, tenir les caps, c'est expliquer comment, dans une vie politique, on peut arriver à construire, à bâtir, à exister, tout en gardant à la fois une certaine forme de rigueur, en ayant dit par avance ce vers quoi on allait arriver. Et donc, tenir les caps, ça veut dire à la fois toute une vie politique et aussi l'emblème de la région Nord-Pas-de-Calais.
Alors, vous avez traversé plus d'un demi-siècle de vie politique française. Vous avez été maire, vous avez été député, président du Conseil général du Pas-de-Calais. Vous avez été aussi avec des responsabilités au Conseil régional, à la culture. Donc, peut-être que pour commencer, je pense que vous racontez, vous l'expliquez dans le livre, comment vous êtes venu à la politique et au socialisme ?
Ben, je suis venu à la politique par l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'un jour, je voulais apprendre à jouer aux échecs. Et donc un copain m'a dit, tu devrais venir au club Lagrange, il y a un cours d'échecs. Je suis donc allé au club Lagrange, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un club Lagrange, mais il y avait beaucoup de jeunes, c'était intéressant, et j'ai appris la vie collective. Et la vie collective a fait en sorte que les jeunes du club Léo Lagrange, lorsque le secrétaire de la fédération Léo Lagrange est venu nous rendre visite, m'avait demandé de faire le discours d'accueil. J'avais 17 ans, j'étais en terminale à l'époque. Et le secrétaire de la fédération Léo Lagrange s'appelait Pierre Mauroy. Et Pierre Mauroy, ce n'est pas un hasard, Pierre Mauroy c'était aussi un homme politique. Et j'ai fini par adhérer à la politique parce que des jeunes m'ont entraîné à une réunion du Parti Socialiste à Boulogne. Et là, j'ai appris deux choses. C'est que la politique, c'était s'occuper des grands problèmes du monde, C'était s'occuper des grands problèmes de la France, mais c'était aussi s'occuper des bordures de trottoirs, construire une salle de sport, faire en sorte que les personnes qui habitaient dans votre agglomération, dans votre commune, bénéficient d'un certain nombre d'avantages sociaux. Et j'ai trouvé que c'était très concret. Et j'ai décidé à ce moment-là d'adhérer. Et après avoir adhéré, évidemment, soit on a sa langue dans sa poche, soit... Mais j'ai beaucoup parlé, je me suis fait souvent rabrouer, en particulier par le maire d'Arras, Guy Mollet, à l'époque. Je me suis fait maltraiter quelquefois parce que je trouvais que les jeunes n'avaient pas assez de place dans la vie politique. Et à force d'être remarqué, j'ai accédé à des responsabilités. J'ai été candidat pour la première fois aux élections cantonales en 1970, donc j'avais 25 ans. Et j'ai été élu conseiller municipal pour la première fois et adjoint au maire en 71, j'en avais 26. Et député, j'ai été le benjamin de l'Assemblée nationale à 31 ans. Et depuis, et je suis arrivé au conseil général de l'époque, j'étais le benjamin du groupe socialiste. Et j'en ai été le président tout en étant le benjamin. Donc, mais c'est toujours des questions de hasard, parce qu'il se trouve que j'ai été député suppléant en 1973, et que le titulaire est décédé. Et donc je suis devenu député. Comme benjamin de l'Assemblée nationale, c'est intéressant, le président c'était Edgar Faure. On apprend beaucoup avec des gens qui ont une expérience politique assez extraordinaire comme Edgar Faure. Son épouse, qui avait une grande culture d'ailleurs. Et puis j'ai eu l'honneur d'accueillir mon successeur comme benjamin de l'Assemblée nationale. Et mon successeur, il s'appelait Michel Barnier. Et donc, c'est de côtoyer tous ces gens-là qui a ensuite m'a incité à aller un peu plus loin. J'ai été vice-président de la région chargée de la culture, et c'était l'époque où la région se faisait, où elle était établissement public et pas encore une assemblée de droit. Il fallait donc s'organiser pour avoir l'Orchestre de Lille, pour avoir Malgloire avec la Chambre du Roi, avec la danse, avec tout ça. Et c'est là que j'ai appris que sans la culture, on est pauvre. Et une grande partie de mes mandats, je l'ai utilisé à essayer de faire en sorte que la culture soit au service du plus grand nombre. C'est ainsi que j'ai construit le premier théâtre élisabétain en France, avec l'aval de la reine d'Angleterre à l'époque. Et on le voit en photo en train de regarder le théâtre dans mon livre. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de réduire les dépenses, et il le faut, c'est jamais à la culture auquel on doit s'adresser. C'est quand ça va mal qu'il faut plus de culture. Et c'est ce que je défends à travers aussi ce livre, c'est de maintenir un cap, c'est-à-dire que tous les gens, quand ils se lèvent le matin, ils doivent être plus intelligents le soir. Et donc il faut leur apprendre quelque chose dans la journée. Voilà.
Alors parmi tous les mandats que vous avez assumés, quel est celui auquel vous avez tenu le plus fortement, celui qui vous tient le plus à cœur, qui vous a apporté le plus et qui, que vous pensez, à partir duquel vous avez pu apporter le plus aux populations ?
Indéniablement, c'est en tant que président du conseil général du département du Pas-de-Calais. Parce que quand je suis arrivé, le directeur régional de la culture disait Pas-de-Calais, PDC, ça veut dire pas de culture. L'image du département du Pas-de-Calais, vous savez que quand je disais quel est le département où l'on aimerait le mieux vivre en France, quand je suis arrivé comme président, le département du Pas-de-Calais était le dernier de France, l'avant-dernier c'était le Nord. Les gens ne voulaient pas vivre dans le Pas-de-Calais. Et donc il a fallu travailler pendant des années et des années à changer la mentalité d'abord des habitants du Pas-de-Calais, c'est-à-dire qu'ils soient d'abord les meilleurs ambassadeurs de leur département, qu'ils aient le courage de dire les places d'Arras sont les plus belles du monde. Les Américains l'avaient dit dans le New York Times un jour, les gens du Pas-de-Calais ne le savaient pas. Ça voulait dire aussi que l'emblème du site des Capes, qui était le site de l'histoire de France, puisque l'histoire de France, elle se résume dans la guerre franco-anglaise pendant des années et des années, était emblématique aussi de cette période. Napoléon, Jules César sont venus. Et une deuxième importance que j'ai eue en tant que président du Pas-de-Calais, c'est de faire prendre conscience que la culture polonaise qui représentait... Vous avez 250 000 habitants du département du Pas-de-Calais qui ont un nom polonais. Et la culture polonaise a été intégrée dans notre culture du département du Pas-de-Calais. Et qu'il fallait aussi en tenir compte. Et qu'elle nous avait apporté beaucoup de choses. C'est-à-dire les raisons pour lesquelles Valéza est venu jusque chez nous, pour voir comment le département du Pas-de-Calais avait intégré l'ensemble. Et c'était aussi un exemple par rapport aux migrants, puisque à l'époque, les gens de la Pologne étaient autant rejetés que les migrants le sont aujourd'hui. Et ça a été aussi de faire un département qui existait au niveau national. On l'a vu au moment des Jeux Olympiques de Londres. Nous avons hissé le drapeau anglais dans la minute qui a suivi l'annonce pour dire nous sommes la base avancée des Jeux Olympiques de Londres. Et c'est ainsi que le département du Pas-de-Calais a pu s'équiper en matière d'équipement sportif dans plusieurs villes du département. À Calais, on a fait un stade d'athlétisme. À Arc, on a fait une salle de gymnastique qui a servi aussi aux Jeux Olympiques de Paris. Et donc les habitants du département du Pas-de-Calais ont pris conscience que leur département, il n'était pas si déshérité que cela et qu'il y avait des choses à vendre. L'histoire de l'Artois, elle est essentielle dans la vie nationale. Un des derniers rois de France était comte d'Artois. Et par conséquent, c'est dans ce travail de changement d'image que je pense avoir réussi le mieux. C'est un peu plus dur dans le bassin minier que dans les autres parties du département, en particulier sur l'Artois, sur le littoral, c'est plus simple. Dans l'Audomarois, c'est plus simple. Mais vous vous rendez compte que nous avons maintenant pratiquement toutes les mini-régions du département du Pas-de-Calais qui ont quelque chose de classé à l'UNESCO. Et donc, c'est aussi une image qu'il fallait changer. Aujourd'hui, le département du Pas-de-Calais, si on interrogeait, on dirait, ben oui, en 2030, par exemple, la plage la plus fréquentée de France sera Berck, parce qu'il fera des conditions climatiques acceptables, et qu'à Berck, il y a une énorme plage, on ne sera pas les uns sur les autres. Et c'est à ça que j'ai servi pendant ces 10 années, à la fois en servant les habitants, en servant les plus défavorisés. Je suis arrivé, c'était l'affaire d'Outron, avec une image aussi qui collait au département du Pas-de-Calais, et il a fallu changer toutes ces images, et je pense y être arrivé. Aujourd'hui, on ne parle plus du Pas-de-Calais comme un département mis à part, on parle du Pas-de-Calais comme un département en développement. Il y a des choses qui n'ont pas avancé, mais il y a beaucoup de choses qui ont avancé et qui ont servi à donner confiance à ses habitants. Et quand vous avez vos habitants qui sont aussi vos ambassadeurs, vous pouvez aller conquérir le monde.
Alors vous insistez beaucoup dans vos prises de parole là sur la culture. Nous sommes à Arras et on vous a entendu plusieurs fois, plusieurs années au Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale du 1er mai, organisé par Colère du Présent. Ce salon est terminé. Il n'aura pas lieu cette année ni les années suivantes. Comment vous avez perçu cette information qui est plutôt triste?
Oui, avec beaucoup de souffrance, parce que c'était aussi l'originalité du Pas-de-Calais, de dire nous avons une histoire sociale à raconter. L'histoire sociale de la France, elle passe par le département du Pas-de-Calais, parce que le département du Pas-de-Calais a été ce département des mineurs qui ont été les premiers à se révolter sous l'occupation allemande. Et donc, je trouvais que c'était tout à fait approprié que Arras organise ce prix. Aujourd'hui, je trouve qu'avant d'abandonner, il aurait fallu faire plusieurs tables rondes, trouver des ambassadeurs, c'est-à-dire des gens qui auraient pu parler et dire comment ce prix servait aussi à l'identité de l'histoire de France à travers le prix qui était décerné dans le département du Pas-de-Calais. Ben, les gens qui ont eu des prix sont des gens qui sont aussi connus dans toute la France. Et je dois dire que c'est une grande souffrance. Le jour où il y a moins de culture, on régresse. Et quand il y a moins de culture, vous avez moins de gens qui veulent venir s'installer chez vous. Et vous avez en particulier les décideurs qui s'en vont parce qu'ils pensent que leurs enfants ne vont pas recevoir l'éducation qu'il faut. Et ce salon-là, ce grand prix du livre, moi que j'ai suivi régulièrement pendant les 10 années où j'étais président, quand j'étais sidéré de voir qu'il s'arrêtait, alors qu'il est indispensable à notre histoire.
Alors une dernière question peut-être, comment vous voyez le Parti Socialiste aujourd'hui, alors que vous l'avez connu les années 70, 80, quand même des périodes plutôt florissantes pour le Parti de la Rose?
Oui, c'est triste de voir ce que l'on voit aujourd'hui, sauf que on se rend compte qu'au fur et à mesure que l'idée de l'élection présidentielle au suffrage universel progresse, ça veut dire qu'on a arrêté d'avoir des idées pour avoir simplement des photographies. C'est-à-dire lorsqu'on dit la prochaine présidentielle va arriver, personne ne se pose plus la question de savoir pourquoi faire, parce qu'on se pose la question avec qui. Et avec qui vous avez des rivalités d'hommes, parce qu'il n'y en a qu'un. Et par conséquent, les partis, tous les partis d'ailleurs, et pas que le Parti Socialiste, sont en train de disparaître parce que les querelles internes pour savoir lequel. Et puis pendant qu'on choisit lequel, pendant qu'on se bat, on n'a plus aucune idée. Or aujourd'hui, on s'aperçoit que l'argent est maître du monde. Quand vous voyez que l'homme le plus riche du monde va être ministre aux États-Unis, ça veut dire que le capitalisme est en train de tuer. Quand vous voyez aussi que les médias sont au niveau des plus riches, et que par conséquent, ils font passer les messages qu'ils veulent. Et les partis devraient s'occuper d'abord de ça. C'est-à-dire qu'en réalité, au siècle dans lequel on est, les années dans lesquelles on est, en voyant la progression des plus riches devenir plus riches, c'est très marxiste ce que je vous dis. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Eh bien, il faut repenser aussi l'idéologie. Et tant qu'on n'a pas redéfini les buts et les objectifs, les caps qu'il faut se fixer pour pouvoir... Avant de commencer à vouloir conquérir le pouvoir, eh bien, on aura des querelles de personnes, et les gens en ont assez des querelles de personnes. Les partis politiques ne se sont pas aperçus que les gens avaient besoin de rêver encore, et donc qu'il fallait les faire rêver. Ça veut dire que les fondamentaux, en y ajoutant l'écologie, sont les fondamentaux que Jaurès décrivait avant 14. La laïcité, l'égalité, il n'y a pas de fraternité ni de liberté s'il n'y a pas d'égalité. Et donc voir comment on peut réduire les inégalités. Et réduire les inégalités, c'est mettre le service public encore plus fort au service des autres. Vous voyez que Musk aux États-Unis doit faire disparaître le service public. Ça veut dire que ce n'est pas l'intérêt des plus riches d'avoir un service public, puisqu'eux n'en ont pas besoin. Par contre, les plus pauvres ont besoin du service public, c'est leur seule richesse. Et ça, les partis politiques doivent écrire une ambition sur les 20 prochaines années, sur les 30 prochaines années, avant d'écrire le programme pour les 5 prochaines années quand ils sont candidats. Et après, on trouve quelle est la meilleure personne qui incarne ces prochaines années. Et pas dire on va mettre un tel et ensuite il va nous dire ce qu'il va faire. On prend les problèmes à l'envers. D'où, un, la proportionnelle pour les législatives, et deux, tôt ou tard, l'abolition de l'élection du président de la République au suffrage universel. Nous sommes le seul pays d'Europe à faire ça de cette façon. Et par conséquent, le seul pouvoir que les gens ont, étant donné que le Parlement est souvent aux ordres du président de la République, là aujourd'hui on voit que c'est la pagaille parce qu'il ne l'est pas, les gens, c'est dans la rue. Et tout ça finira dans la rue. Si les partis politiques ne donnent pas un idéal à toutes celles et tous ceux qui ont envie encore d'avoir une société dont ils rêvent.
Bientôt plus de cap grillé, encore moins de cap blondé. Ce qu'on voit, c'est non et tout rouge. Quand les verres que je lève ôtent le sel sur mes lèvres, moi je pense à Marie qui est partie.
Dominique Dupillet, ancien député socialiste, ancien président du Conseil général du Pas-de-Calais, ça s'appelait comme ça à l'époque. Le livre Entretien, tenir les caps avec Jean-Jacques Damor, préface de Laurent Fabius, est sorti aux éditions Angelard. Dominique Dupillet, il était au micro de Jean de l'émission Tumulte, c'était jeudi dernier à la Grand Librairie à Arras.
Lors le nez dégrisé, je quitte l'estaminet et je regarde en rêvant le rideau. L'autre côté de la mer, les collines d'Angleterre montrent que le monde par ici est tout petit. Et la gorge déployée sur le flot déchaîné, je l'appelle à grand cri, viens Marie. Peut-être qu'à l'amoliment pour pêcher c'est le bon temps, mon filet me la rendra dans mes bras. Quand la mer monte, j'ai honte, quand elle descend, je l'attends. À marée basse, elle est partie, hélas, à marée haute avec un autre. Quand elle descend, je l'attends. Ah. Hello.